France Culture.
France Culture la nuit, un patrimoine radiophonique.
...1978 a été une année importante pour France Culture. C'est l'année du lancement d'une aventure plus que jamais voulue, pensée et placée sous le signe du magnétisme. Une nouvelle polarité a trouvé forme et expression radiophonique sous la houlette d'Alain Weinstein et la vigilante attention du directeur des programmes de l'époque, Yves Jégu. Polarité des langages, des modernités, des prises et déprises de l'histoire telle qu'elle est parlée intimement, par devers soi ou à l'adresse de témoins inconnus, chassés-croisés de rencontres, de hasards et d'auditeurs à l'écoute. Les Nuits Magnétiques, donc, présentaient inauguralement en 1978 une semaine d'expédition et précisément sur la côte est du Nouveau Monde, zigzag dans sa capitale culturelle et mythique, voyage au bout de la nuit et de la ville, et attention, sans sas de décompression. New York, capitale du capitalisme, ville, métro, rue, bande, images sonores, premier épisode d'un journal de voyage, signé Pascal Dupont.
Bonsoir. Nuit magnétique, du lundi au vendredi, 22h30, 23h50. Pour inaugurer ce nouveau programme, j'ai demandé à Pascal Dupont de se rendre à New York et d'en rapporter un journal de voyage écrit et enregistré à la première personne du singulier. Paradoxalement, ce ne sont pas les signes de la modernité que Pascal Dupont a trouvé à New York, mais les réminiscences d'un obscur Moyen-Âge. New York vivrait à l'heure du Moyen-Âge, si l'on en juge par la grande peur qui saisit la ville, l'histoire de la folie qui s'y écrit chaque jour, l'obscurantisme qui l'aurait lié, l'éclatement des mysticismes, la cour des miracles qu'est la rue et les jacqueries des gueux du ghetto. Selon Pascal Dupont, tout dans la ville, jusqu'à l'annonce possible ou rêvée d'une renaissance, semble relever d'une fresque médiévale. Cette première semaine de Nuit Magnétique sera donc entièrement composée de ce journal de voyage en 5 épisodes, fait d'impressions prises sur le vif et entrecoupées d'entretiens, de bruits de la rue, de textes et de musique. Beaucoup de musique, toute contemporaine. Ce soir, jusqu'à 23h50, La Grande Peur. La Grande Peur sur les magnétophones de Nuit Magnétique. Pascal Dupont nous dira ses premières impressions. Le métro, la rue. Il s'entretiendra de la mythologie new-yorkaise avec Anne Coquelin. On verra comment New York se plaît à mêler les genres, à confondre les époques et à s'inventer une histoire. New York Moyen-Âge, émission numéro 1, La Grande Peur.
New York Moyen-Âge, un journal de Pascal Dupont, mise en page par Bruno Sourcy. New York, arrivé un samedi soir. Taxi jaune. Grillage de séparation avec le chauffeur, un noir, qui conduit d'une main et tient une flasque de gin dans l'autre. La carlingue de la bagnole rebondit bruyamment à chaque bosse. Le soleil vient à peine de se coucher. Le ciel a une couleur de soufre, lumière orange, ça sent le soufre aussi. La ville est désertée le week-end. Des papiers volent dans Madison Avenue. Impression de ville engloutie, à mesure que la nuit approche. L'Atlantide, Pompéi, Syracuse, Byzance dévastée. Ville morte, rêvée avec ses gratte-ciels, Babel fou d'orgueil. Orgueil des flèches byzantines et néo-gothiques. La voiture traverse en bondissant des quartiers désaffectés comme de vieilles gares et qui ont dû avoir leur heure de gloire. L'obscurité s'étend, l'ombre de King Kong. Dans la première avenue, au bord d'un petit square qui fait face à Roosevelt Island, un jeune noir promène une troupe de caniches blancs. Le caniche est le chien de New York. Une noire très belle en promène un en sens inverse. Elle a des cuissardes bleues phosphorescents. Façade aux 1000 fenêtres identiques. Petites briques grises, orange ou rose, uniformes. Ici, les maisons ont des noms de pâtes dentifrice ou de machines à calculer. Première sortie, dîner à Greenwich. Il faut prendre le métro. Ce qui frappe d'abord, plus que les graffitis qui le colorent, c'est le tintamarre qu'il fait. D'ailleurs, les graffitis ne semblent être que la transcription scripturale des bruits de la ville. Des clameurs mises en bulle, des cris décryptés, des voix à lire. Le train express est lancé dans une course folle à travers les stations. Bruit de treuil, choc des wagons, illusion et ivresse d'une montagne russe et souterraine. Comme une machine infernale.
Alors le métro express, ça a presque intérêt à te boucher les oreilles quand il va passer, parce que ça fait trembler tout, la terre, les vitres, ton cœur. Ça passe à une vitesse incroyable et tous les gens sont amassés en grappes dedans. Et t'as l'impression que c'est une autre phase de l'humanité qui passe.
Manuela Brignone.
Alors il y a ces couleurs en même temps et ces graffitis qui ressembleraient presque à des bandes dessinées, à des films et à des couleurs incroyables. Mais tout est gris en même temps. Les gens ont l'air très tristes. Et on se demande où est-ce qu'ils vont tellement vite. Qu'est-ce qui les pousse Ça fait très peur parce que... On ne sait pas ce que c'est au début, on comprend pas. On comprend pas d'abord parce qu'on s'est perdu au moins 10 fois dans la station pour essayer de prendre son local.
Mais un métro, c'est un métro, pourquoi ça ferait peur?
Parce que c'est sous terre, parce qu'on dirait presque les catacombes. C'est le plus vieux métro que j'ai jamais vu. Il complètement en ferraille. On a l'impression que les pièces vont se détacher entre deux stations, qu'on va être coincé entre une porte parce qu'elle a mal fermé. Et il y a ces graffitis partout au mur. Et il y a ces gens qui vous regardent sans vous regarder, avec des regards complètement fixes, complètement pris dans leur propre voyage. Chacun voyage à toute vitesse dans un train qui voyage encore plus vite qu'eux. J'ai l'impression que tout le monde se regarde. Mais il y a un commun accord qu'au moment où la personne se sait regarder, l'autre personne qui regarde change son regard de direction. Et donc, en fait, on croise aucun regard, mais tout le monde s'est vu. Et il y a une espèce d'accord tacite qui est très curieux. Enfin, moi, j'ai l'impression de regarder beaucoup trop, d'être un touriste, de pas du tout être étonné par ces regards et de les soutenir, de jouer un espèce de jeu qui n'est pas leur, de les déranger, j'ai l'impression. Mais ça, c'est peut-être au début, quand on arrive, après, on s'habitue et on devient aussi fugitif, fuyant, anonyme, mais en même temps complètement... Ce que j'ai l'impression, c'est que les gens sont complètement sur leur garde en même temps dans le métro. Parce qu'à la limite, si entre deux stations, et ça arrive souvent, la lumière s'arrête, il n'y a plus de lumière, à ce moment-là, chacun serre les coudes, chacun se demande, mais est-ce qu'on ne va pas me sauter dessus ? Et... Si on s'apesantissait tellement sur ce métro, il y aurait de quoi en pleurer par moment. Tellement c'est dégradant pour les hommes, pour l'humanité, pour ce que c'est que simplement prendre un métro. On en est arrivé à un tel stade de dégradation qu'il vaut mieux en rire. Et puis d'ailleurs, les graffitis qu'il y a sur les métros, c'est ça aussi. C'est une boutade. C'est des espèces d'énormes trains de couleurs. On joue sur la ferraille, on joue sur un peu l'idée futuriste du train.
Est-ce que les gens sont des tas de ferraille aussi ? Est-ce qu'ils sont aussi déglingués que le métro lui-même ?
Non, moi j'ai pas l'impression. J'ai l'impression que le métro c'est quelque chose de qui est complètement en fait attaché à la ville. C'est attaché aux trous qu'il y a dans les rues, c'est attaché aux vapeurs qui sortent. C'est attaché à tout un monde. Qui a l'air d'être la fin du monde parce qu'il n'a pas l'air d'être entretenu, mais les gens qui le prennent, on a l'impression qu'ils sont dedans, qu'ils s'immunisent. D'ailleurs, les publicités le disent, si vous faites ci, vous n'aurez pas mal. Qui fait qu'on traite les gens dans le métro comme des enfants. Les gens sont devenus au stade le plus pur des impulsions, en fait. Et ils sont absolument incapables de réfléchir. Donc si on leur dit ça ne vous fait pas mal, c'est parce que c'est ce qu'on dirait presque à un enfant. C'est les impulsions de base qui est le feu peut-être. Fais attention, tu vas te faire mal si tu touches au feu. Il ne faut pas jouer avec le feu. Et on a l'impression que c'est peut-être là-dessus que c'est basé ce genre de publicité. C'est-à-dire qu'il y a, c'est encore un accord tacite de guerre, de couvre-feu même, qu'il y a. Ben, je ne sais pas, je connais bien Broadway. Sur Broadway, il y a une guerre à partir du numéro 100 de la rue 103 jusqu'à 86e rue. Il suffit de se balader à n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit. Il y a des gens qui vous attendent le long des cinémas, qui vous épient, qui regardent ce qui se passe, qui sont prêts à n'importe quel moment de vous proposer quelque chose. Ça peut être de la drogue, mais c'est aussi de la violence. En fait, on vous propose de la violence. Et l'autre jour, je me baladais aussi et j'ai vu un type qui avait un bras ensanglanté et il n'avait pas peur d'exhiber son bras. Il n'est pas rentré pour se faire soigner. Il l'a laissé dans la rue et il le montrait aux gens. Comme hier aussi, le type qui était habillé complètement en bandelette, qui jouait aux malades, aux fous. C'est que les gens, à la limite, quand ils, je crois que c'est la même chose que les sirènes qu'on entend, c'est qu'il y a cette peur partagée par tout le monde. Et les sirènes, tout le monde, quand il y a la sirène qui passe, retient sa respiration. Et en même temps, tout le monde sait que la sirène va passer et que c'est pas, ça t'arrivera pas à toi. Mais en fait, on se demande si ça va pas t'arriver à toi. Puisque hier, même dans la rue, à 4h du matin, tout d'un coup, on a entendu des cris. Une femme qui criait très très fort. Et on s'est précipité à la fenêtre. Et on n'a pas vu ce qui s'est passé, mais il y a une voiture qui est partie à toute pompe. Et est-ce qu'elle a été embarquée, est-ce qu'elle a été kidnappée, on ne sait pas. On ne saura jamais.
Lou Reed, New York Star.
Greenwich, un îlot de rues riantes, maisonnette londonienne, la dimension humaine retrouvée. Washington Mews, d'anciennes écuries, maisons d'un étage, façades feuillues. Les rues perdent leurs numéros, portent des noms. Impression de paix, de tranquillité. Retour en métro, à nouveau plongé dans cette espèce de bain de gamètes. Les voyageurs ont l'air d'une colonie de fœtus, baignant dans un placenta glauque. Tard dans la nuit, une femme crie dans la rue. Puis une voiture démarre en trombe, hurle en tournant au coin sur les chapeaux de roue. Angoisse. New York n'est pas une ville, elle est la ville. Une ville qui se veut le centre du monde, le nombril de l'univers. Globe terrestre et statue d'Atlas devant les buildings. World Trade Center et United Nations Headquarters. On l'a souvent dit, New York se veut ville impériale, universelle. Mais ce qui est encore plus marquant, plus lisible ou visible, quand on se promène dans ses artères, c'est qu'elle entend embrasser dans sa courte histoire toutes les époques de l'humanité, quitte à les recréer dans ses murs avec les styles Renaissance, Gothique, Tudor, Versailles, le 18e, tout. Quitte aussi à mettre un terme à l'histoire, à décider qu'elle en est l'achèvement, le sublime aboutissement.
Les périodes stylistiques de l'ancien et du moderne défilent si rapidement sous nos yeux qu'elles ne sont déjà plus que les séquences d'une défection généralisée de l'architectonique. Au point où il faudrait aujourd'hui la chronophotographie de Mary pour apercevoir la forme structurale de la défaite urbaine, Berlin, mais aussi bien Paris ou New York. Paul Viriot, Revue Traverse, texte lu par Thomas Woods.
Et c'est vrai qu'à New York, le moderne, la construction moderniste et triomphale du moment, si claquante soit-elle, a une odeur de poussière, celle décidément historique, mythique, qu'elle traîne avec elle. New York reflète en permanence les réminiscences architecturales d'autres âges. New York Times, les âges de New York. Pêle-mêle, l'histoire des hommes depuis l'Antiquité et les histoires individuelles. Le métro est paléolithique, le Lascaux de l'ère industrielle. En témoignent les inscriptions rupestres, les graffitis. et dans la rue à un carrefour, surgit un totem peint en noir et chargé de la sémiotique urbaine. C'est que la ville est aussi tribale, mais elle est tout aussi gothique, renaissante, classique, baroque, romantique. À Franklin Delano Drive, le long de la rivière Harlem, sous le périphérique, un noir pêche à la ligne. Il n'est d'aucune histoire, lui. Donc New York a une histoire. Forcément, elle est dans l'histoire. On peut parler de la ville comme d'une ville imaginaire, rêve de la ville. On peut en parler aussi comme de la ville la plus bouffée de réalité, folie de la ville et conscience écorchée. Mais le plus passionnant est de retrouver la genèse de New York à travers ses moments, ses instants aujourd'hui. Et si New York, c'était le Moyen-Âge ? C'est entrer profondément dans la mythologie urbaine. Or, il n'est de mythe que ceux qui trouvent leur point d'ancrage dans la réalité. New York Moyen-Âge est ainsi partie de la réalité new-yorkaise. Parler de New York Moyen-Âge, c'est faire de New York une ville métaphorique, au sens où la métaphore permet simplement le transfert à une chose d'un nom qui en désigne une autre, mais au sens aussi où New York vit et vibre sur un rythme étrangement différent de celui pour lequel elle a été bâtie. New York, ville emblème de tous les futurs, avenir et fiction, est en même temps une ville obscure, archaïque, moyenâgeuse. À se promener dans son dédale, à fouiller ses rues, on se fait historiographe. New York est, elle a été, comme d'autres, elle a eu son Moyen-Âge, à moins qu'elle ne le vive aujourd'hui.
Et les bandes de jeunes, qui s'appellent les nomades sauvages, ou qui s'appellent les cruels, ou qui s'appellent les vengeurs, ou qui s'appellent les célibataires, ou qui s'appellent les squelettes. Donc voilà des termes, des mots, qui ont à la fois une connotation terrorisante.
Alain Mesdames, un.
Et qui signifie à la fois revendication, violence agressive contre l'ordre établi, mais tout le temps avec une sorte de connotation quasiment ésotérique, mystique, obscure et presque religieuse au sens de la réémergence de la religion dans la société du Moyen-Âge, la réélaboration du christianisme dans les mystères. Il y a donc une sorte de mystère, de théâtralité dans la cathédrale New York, d'après nos systèmes de lecture. Pour elle, elle est New York.
À New York, je trouve un livre dans la bibliothèque d'une amie. Son titre, La révolution industrielle du Moyen-Âge. Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, écrit l'auteur, j'étudie conjointement le Moyen-Âge et les États-Unis et ne cesse d'être frappé par les parallèles historiques qui se présentent à mon esprit. Ce que Jean Gimple, l'auteur, met en parallèle, c'est tour à tour la foi et la religion de la liberté, Beauvais et l'Empire State Building, les Cisterciens et Henry Ford, la croisade des Albigeois et la guerre de sécession. Et pour démontrer que la publicité n'a rien d'une innovation contemporaine, il ajoute que les groupements professionnels étaient autorisés à faire de la publicité de prestige sur les vitraux des cathédrales et se réservait les médaillons de la partie inférieure du vitrail. New York Moyen Âge, c'est un parti pris. Mais quand j'en ai parlé au peintre Christo, dans son loft de Howard Street, il s'est passionné avec moi pour l'idée et m'a recommandé de me promener, tôt le matin, dans le marché des immigrants ukrainiens, du côté de Delancey et d'Orchard Streets.
Lorsque, à 16 ans, le jeune Karl Rossmann, que ses pauvres parents envoyaient en exil parce qu'une bonne l'avait séduit et rendu père, entra dans le port de New York sur le bateau déjà plus lent, la statue de la liberté, qu'il observait depuis longtemps, lui apparut dans un sursaut de lumière. On eût dit que le bras qui brandissait l'épée s'était levé à l'instant même, et l'air libre soufflait autour de ce grand corps. « Qu'elle est haute !» se disait-il. Il en oubliait de partir et fut repoussé petit à petit jusqu'au bordage par la foule sans cesse grossissante des porteurs. Extrait de l'Amérique de Kafka, lu par Thomas Woods.
En fait, le quartier est décevant et ressemble plutôt aux puces de Saint-Ouen le samedi matin. Mais quand encore j'en ai parlé à un chauffeur de taxi, norvégien d'origine et vaguement junkie, il s'est enthousiasmé en partant dans un grand discours sur la mort de l'État. C'est la ville la plus anarchiste du monde, a-t-il dit. Il n'y a aucune sécurité, les forces de l'ordre se foutent de l'ordre tant qu'elles sont payées. Le crime n'est plus condamné. C'est aussi la ville la plus indépendante. Vous n'avez de compte à rendre qu'à vous-même, vous n'avez de compte à régler qu'avec votre bonne étoile. Man, I could not live in another city in this damn world. Et c'est vrai que New York donne l'image d'une société d'avant la constitution d'un pouvoir d'État centralisateur. D'ailleurs, tous les New-Yorkais le disent, ici, le pouvoir est diffus. Chacun a l'impression qu'il peut l'accaparer et en faire ce qu'il veut. Do it, get in. On imagine mal, même si on en a été prévenu, l'activité fébrile de New York. On croit difficilement que tous ces gens qui vont, vont quelque part pour y faire quelque chose. Ils vont, voilà tout. Et Manhattan, certains jours, surtout entre les 27e et 40e rues Ouest, où des cohortes de gueux poussent leurs chariots remplis de marchandises, rappellent les images les plus enfouies du marché médiéval sur le parvis de la cathédrale.
Thanks a lot. Wow. New York, just like I pictured it. Skyscrapers and everything.
Hey, hey, brother. Hey, come here, Slick. Hey, huh? you look hip, man. Hey, you wanna make yourself $5, man?
Yeah, brother.
Hey, look here, run this
time.
Across the street for me right quick, okay?
Hey,
run this across the street for me.
Hey. What? Huh? I don't know. What? I'm just going across the street.
Shut your mouth.
Oh, no. What I do?
New York est un village, une assemblée de bourgs. Brooklyn, par exemple. Clark Street, à Brooklyn Heights. On est à peine sorti de la station. Un petit vieux rencontre un autre petit vieux. Hello, Nick. How are you? Fine. On est ailleurs. Ici, comme dans Greenwich Village, des arbres, du verre, devant les maisons basses qui avancent dans la rue avec leurs escaliers de pierre. Charme coquet, celui d'une ville que l'on connaît, Birmingham, disons. Ni beau, ni laid. Brooklyn est déserté le jour. Des petits vieux, des retraités, des chômeurs. Impression de paix. Le soleil chauffe les petits squares. Chaud. Les défenses se relâchent. Ramsden Street, une allure chic, très South Kensington. Maisons comme des pâtisseries. On croit entendre un fiacre tourner le coin de la rue. Hans Lane, un mews. Du vent et des oiseaux dans les arbres. Ombre et lumière, douceur. Si près, si loin de la ville. Joralemon Street, toujours dans Brooklyn. Une charrette remplie de fleurs, tirée par un poney. C'est Marketplace. Un peu plus haut, Packer College. Bâtisse sombre dans le style Tudor. Fenêtre en ogive. Monroe Street, quelques bigots bancals, accompagnés de leurs nurses, arpentent le trottoir. Quelques très vieilles maisons à un corbeillement et colombage, des fanaux accrochés devant la porte. Et puis brusquement, au bout de la rue, on débouche sur des buildings à nouveau. Back in USA et retour au béton.
C'est Redondo Beach, de Patti Smith.
afternoon, dreaming hotel. She just had to quarrel, sent you away. I was looking for you. Are you gone, gone? Call you on the phone. Another dimension. Well, you never return.
Fifth Avenue, comme deux cavaliers de la garde faisant leur ronde dans les douves du château, deux policiers montés et casqués de bleu vont au petit trot sur le macadam. Les époques s'embrouillent, les gens s'en mêlent, comme dans cet antique album de bande dessinée intitulé Le piège diabolique, où l'on peut suivre les aventures de Black et Mortimer, aux prises avec une troupe de cerfs encapuchonnés et révoltés dans les couloirs dévastés d'une ville troglodyte et futuriste. New York de même a ses cerfs, ses Jacques, ses vilains, que l'on repère à leur habillement. Le training, le survêtement que portent les jeunes noirs sur les playgrounds, rappelle la cagoule, la houppelande, des manants d'autrefois. Quant aux couleurs de ces vêtements, ce sont celles des drôles, des bouffons, des oiseaux bariolés que l'on retrouve sur l'étoile de Bruegel ou de Jérôme Bosch. La fête des fous. Et jusqu'aux fantaisies de la coupe de cheveux. À Greenwich, plusieurs fois, il m'est arrivé de croiser des hommes qui s'étaient fait coiffer au bol comme des moignons, tempes et nuques rasées. Les excentricités vestimentaires de New York lui donnent des allures de foire, de cour des miracles, avec ses mendiants, ses sorciers, ses butlers et ses marchands. À Washington Square, une fille passe. Elle a accroché des étoiles rouges en strass à l'extrémité de chaque paupière. Un peu plus bas, dans Broome Street, on trouve un magasin fou, décadent, romain, Phantom Forum, où chacun peut, à sa guise, trouver son travestissement ordinaire. Habit de grand guignol et d'opéra mauvais goût. Strass, voile brillant, paillettes, fourrure, toque en tête de loup, et chapeau en velours de soie. Aspect extérieur encore, les bus aux flancs en alu sont carénés, rivetés comme des machines de guerre.
Les New York Dolls.
New York aussi a ses héros, les flics d'abord. Mais les pompiers surtout, dont les voitures rutilantes sillonnent la ville, toutes sirènes hurlantes. Beau joujou tout rouge. Héros de New York, dans toutes les écritures du mot, on célèbre leur légende au musée du feu. On écrit leur histoire dans de beaux livres illustrés. Images de cuir et de cuivre, culte de Moloch. Mais c'est vrai qu'ici, l'incendie est la grande peur. Vrai aussi, pour parodier Fernand Léger, qu'on brûle la vie ici. Les New-Yorkais ont leur jeu, leur joute. À la télévision, dans les stades, à Yankee Stadium, ils ovationnent leur équipe de football, que l'harnachement, casque, protège-mâchoire, cotte de maille pour tenir assemblés les différents éléments de la cuirasse, fait ressembler à une troupe de chevaliers s'apprêtant pour le tournoi. Ailleurs, ce sont les jeux du cirque. Dans Amsterdam Avenue, d'immenses camions à remorque, lancés à toute vitesse, se font la course sur deux voies, course de chars ou de stock-car. Ailleurs encore, dans Central Park ou Riverside Park, mais aussi dans la rue à contre-courant de la foule des piétons, les joggers courent. Tenue parfaite, short de boxeur en satin et jambières en laine de danseur, ils préparent le marathon annuel qui a lieu en octobre. 20 000 coureurs environ, sur 26 miles, 40 kilomètres. Traversée de Harlem. Une majorité de blancs, la course héroïque dans les quartiers interdits. C'est la trêve olympique. Mouvement mécanisé des jambes, mâchoires serrées, regard fixe, tronc comme tendu en arrière. Corps huilé, culte du muscle et beauté apollinienne. Au bout, c'est l'agonie ou l'extase, lance un coureur. Et ainsi de New York. On joue dans la rue, jeu du corps, jeu de mots, jeu de gestes. Les Noirs surtout, dont le ballet permanent, la démarche Soul, est une chanson de gestes. La nuit toujours. La ville vibre encore comme une vrille dans les têtes. Une sirène déchire le silence. comme une meute de chiens cybernétisés courant à lièvre mécanique. Quelque chasse à l'homme est lancée dans la ville.
Thanks a lot. Wow. New York, just like I pictured it. Skyscrapers and everything.
Hey, hey, brother. Hey, come here, Slick. Hey, huh? you look hip, man. Hey, you want to make yourself $5, man?
Yeah, brother.
Hey, look here, run this front street for me right quick, okay? Yeah, run this front street for me.
Hey. What? Huh? I don't know. What? I'm just going across the street.
Shut your mouth.
Oh, no. What'd I do?
Turn around, put your hands behind your back. Let's go.
A jury of your peers having found you guilty, 10 years.
What?
Come on, get in that cell, nigger.
God, no.
His hair is long, his feet are hard and pretty. He spends his life walking the streets of New York City. He's almost dead from breathing in air. He tried to fight, but to him there's no solution. Living in just enough for the shit sheriff. I hope you hear inside my voice the sorrow, and that motivates you to make a better tomorrow. This place is cruel, no way to be much colder.
Stevie Wonder. Heures dans le building de la MGM. Je suis invité à voir un film sur l'école de danse de Rykoff. De toute évidence, je me suis trompé de jour, sinon d'endroit. C'est une romance polonaise à l'eau de rose qui est projetée. Qu'à cela ne tienne, les sièges sont confortables et dehors, avenue des Amériques, le vent souffle froid. On m'a reçu comme si j'étais attendu. Entre deux bouleaux de la grande steppe polonaise, entre l'attaché de presse et une grosse huile de la MGM, je m'endors sur une note de Chopin. Le mélo a un titre que j'ai eu le temps d'apercevoir avant de fermer les yeux, c'est Leper, ce qui veut dire lèpre en polonais. New York a peur de la lèpre. La lèpre, c'est le feu, c'est le noir ou bien la mort. New York a peur dans le noir. Mais en même temps, elle cultive une forme de catastrophisme ludique. On joue à se faire peur. On arbore des t-shirts sur lesquels est inscrit « Je suis le fils de Sam » ou bien « Blackout Day, I was there ». New York a peur de la peste. Elle mène une lutte systématique et implacable contre les rats et les cafards.
Forêt menaçante pourrait toujours envahir la ville, la nuit prendre le dessus sur le soleil de jour, on craint les paysans, les jacqueries, les loups. Est-ce que New York est un peu une de ces villes que l'imagination rend légendaire en la peuplant comme ça de loups?
Ah oui, je te répondrai tout de suite que avant de partir à New York, on avait plein de loups dans la tête, et là, mais c'était pas des loups. Justement, ça c'est un truc amusant parce que les loups c'est très français. On pense pas loup quand on pense à l'Amérique, on pense loup quand on pense à la campagne française, aux Ardennes, aux moines qui ont des frichets, bon, au Moyen-Âge. Or, on voit pas New York au Moyen-Âge, donc il n'y a pas de loup à New York, c'est pas des loups. Ce serait des léopards, ça serait enfin, des animaux de jungle. Oui, les loups, c'est très civilisé, tu vois. Là-bas, oui, des guépards, des jaguars, peut-être... des pumas, enfin, des hordes, mais inconnues.
New York fantasme, Anne Coquelin. Anne Coquelin qui est co-auteure d'un ouvrage sur la ville la nuit est passée vite, très vite à New York. Elle parle des loups et des légendes new-yorkaises qui courent dans nos têtes.
Et ce qui rendait New York de loin très, à la fois fascinant et puis assez terrifiant, c'est qu'on ne savait pas du tout à quelle espèce de horde on aurait affaire. Des bisons peut-être, des mammouths. On disait que, je crois, une rue de New York, c'était celle qui avait été tracée par les mammouths qui descendaient boire. Non, c'est pas ça, c'est les Indiens. Alors des Indiens mammouths, enfin quelque chose de très très bizarre. Alors on bricole comme ça des éléments tout à fait étranges et on arrive sur la pointe des pieds à New York. Et quand on est arrivé, on avait des phénomènes de rejet par New York même. C'est-à-dire qu'on a failli se perdre avant d'arriver, on est descendu non pas à New York, mais à New York. Alors comme on entendait, comme on ne parle pas bien américain, on s'est dit ça y est, c'est arrivé, on est descendu du train. On s'est aperçu que c'était peut-être pas là, on est remonté dans le train. On ne savait pas, déjà à New York, on ne savait pas où ça commençait, où ça finissait. Il n'y avait pas les limites, il n'y avait pas la horde des loups bien rangés, tu vois, ou bien même des rats, dont on sait qu'il y a un chef. Tu vois, c'était ni des rats ni des loups, c'était quelque chose d'inconnu. Et ça, c'était assez extraordinaire. Et c'est la première vision de New York, c'est où est-ce qu'on va et où ça commence. Et quand on arrive à la gare, est-ce que c'est déjà New York? Est-ce qu'on doit se cramponner à ses valises? Le taxi, c'est quelle sorte d'animal? C'est pas du tout un animal parisien, le taxi de New York. C'est un animal brinque-ballant, jaune, qui fait un bruit d'infernal, qui a des grillages. Alors, est-ce que c'est le taximan qui est enfermé dans le grillage ou est-ce que c'est les passagers? On ne sait pas si on est des prisonniers du monsieur ou s'il est le nôtre. Et on a pour lui parler un petit trou, enfin, dans lequel on doit mettre l'argent et puis il vous rend l'argent dans un autre petit trou. Alors, quelle sorte de zoo et quelle sorte d'animal? Et bon, c'est une réponse à cette question. Et c'était déjà très étrange. Et en plus, il est parti dans New York à toute allure, en brûlant tous les feux rouges, en brinque-ballant comme un fou. Et puis, on est arrivé chez nos amis intellectuels. Bon, nos amis intellectuels, c'est aussi une race, pas du tout civilisée. Enfin, c'était encore des limites tout à fait étranges.
Drôle de bison.
Un drôle de bison, extrêmement sophistiqué. En même temps, vivant rétro. Alors, pas c'était en plein vieux mois de juillet. Pas de climatisation, parce que pas de gadget, pas de société de consommation. Alors, pas de société de consommation, c'est-à-dire 42 degrés au dernier étage du machin. Alors, on s'est aspergé avec des brodeaux, puis on a essayé de tenir le coup, et puis on n'est pas arrivé, on est parti à l'hôtel. Alors déjà, c'est des territoires qu'on ne peut pas habiter. On est obligé de déménager immédiatement, tu vois. Alors, rien à voir avec les territoires... parisiens qui sont extraordinairement sectorisés, où tu sais très bien où tu mets les pieds. Là, c'était qu'est-ce que c'est que ce taxi, qu'est-ce que c'est que cette maison, dont tu es obligé de sortir tout de suite pour aller dans un hôtel, qui n'avait pas de porte parce qu'elles avaient été fracturées. Donc, les notions de limites auxquelles on est habitué dans Paris, et dans Paris la nuit, par exemple, où on sait parfaitement qu'on passe d'un quartier à l'autre, c'est marqué, c'est sur le sol pratiquement. Tandis que là, cet hôtel, qu'est-ce que c'était? Et à ce moment-là, alors, autre question de limite. Le climatisateur faisait un bruit tel qu'on l'a arrêté. Alors bon, on meurt de chaud. Alors on ouvre les fenêtres. Et à ce moment-là, on entend la police. Alors interminable toute la nuit. Alors on referme les fenêtres et on ouvre l'appareil à froid. Alors il fallait choisir entre le bruit, tu vois, de la police dehors et le bruit du climatiseur dedans. Alors on a passé la nuit à fermer et à ouvrir les fenêtres sans savoir exactement quoi faire. C'était absolument épouvantable. Alors, là-dessus, on s'est fait voler tous nos papiers normalement. Ça, on s'y attendait, donc on n'était pas surpris. Seulement, on nous a volé le carnet sur lequel il y avait toutes les adresses de tous les copains. Donc, on n'avait plus qu'un petit carnet sur lequel on avait noté les adresses, qui étaient, tu vois, des adresses où on ne voulait pas aller parce que c'était des milliardaires américains, et ça nous intéressait moins. Et on n'avait plus que la ressource des milliardaires. Si bien qu'on est parti à Oyster Bay, où on a vécu somptueusement le reste de notre voyage à New York. Voilà mon histoire new-yorkaise. Donc on a été obligé de déménager sans arrêt d'un endroit à l'autre, avec des limites qui s'effaçaient au à mesure, finalement, pour se retrouver dans un endroit enfin civilisé, où on a mangé de la salade sans sauce, ce qui est vraiment, tu vois, le comble du luxe, et des rôtis pas cuits, et devant Oyster Bay, avec un voilier, et puis un petit bateau à moteur. Voilà mon histoire new-yorkaise.
Les animaux, it's all over now, baby blue.
You must leave now, take what you need, you think will last. But whatever it is you think you need, you better grab it fast. Yonder stands your orphan with his gun.
pretty fire in the sun. Look out, the saints are coming through, and it's all over now, baby blue. Street is drawing crazy patterns on your sheets. The sky too now is folding up on you, and it's all over now, baby blue. Your door has taken all his blankets from the floor. The carpet too is moving under you, and it's all over now, baby blue.
Les masses médias s'emparent de la violence à New York pour en faire cette sorte de monstre qu'on nous présente comme monstre. Je ne sais pas à quoi ça s'accroche. Alors, est-ce que ça s'accroche justement à un manque de mémoire de New York ? C'est-à-dire qu'on ne peut pas. Elle est plus ou moins neuve pour nous et elle est très bricolée. Elle est très bricolée puisqu'on sait très bien qu'il y a tous les éléments étrangers, un espèce de peuple hétéroclite dont on ne sait pas d'où ils viennent, depuis combien de temps ils sont là, quelle langue ils parlent. Et je crois que l'hétéroclite, c'est toujours quelque chose qui, tout au moins pour les Français, à cause de leur culture cartésienne et puis du peu de philo qu'ils ont fait et qui vraiment dépend de loin, enfin de la Grèce, l'hétéroclite, c'est quelque chose de monstrueux. Ça a toujours été monstrueux, l'hétéroclite. Et tous les monstres sont des fabrications de morceaux de corps rapiécés. Et je crois que New York est vu dans l'imaginaire français comme un monstre fait de briques et de broc et qui n'a pas acquis son homogénéité. Donc qui est hétéroclite, donc qui fait peur. Ouais, je crois vraiment que la définition de Descartes du monstre, disant il y a finalement une chimère, qu'est-ce que c'est ? C'est une tête de dragon, une queue de serpent, des pattes de singe, je ne sais pas trop quoi, je ne me rappelle plus du texte. Mais enfin, c'était un bricolage. Et je pense que ce bricolé-là, ça fournit une image épouvantable. Il peut manger, il peut dévorer, il peut lancer le feu. Bon, et là-dessus, si tu branches en plus la technique, tu te dis que ce monstre, finalement, qui dans la littérature française occupe une place plus ou moins gentille, et bon, il y a toujours des cendrillons, il y a toujours des fées pour le transformer en prince charmant, et là-bas, tu n'as aucun moyen technique de l'apprivoiser, c'est-à-dire que tu peux pas lutter contre lui, et il est certainement surpuissant. Alors la notion de puissance des États-Unis, mélangée à l'idée de monstre, bon, ben, il est évident que ça doit développer, la fantasmagorie. Hein, je pense que c'est quelque chose comme ça. Alors que nous, nous y tombions dans cette fantasmagorie. Bon, c'est pas très honnête de notre part. On pourrait être un peu plus critique. N'empêche qu'on était, terrorisés quand même, tu vois. Et il est évident que quand tu vois des gens qui sont à la fois juifs, nègres, irlandais, drogués, intellectuels, et tu sais absolument pas où les placer, comment les aborder, qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils arrivent sur toi dans la rue. Tu ne sais pas quoi leur dire et tu n'as aucun repère.
Il a été question de monstres, de chimères, de contes de fées aussi, de princes charmants, etc. Est-ce que le statut mythique de New York n'est pas aussi dû au fait que, comme d'autres villes mythiques, Pompéi, Syracuse, etc., il y a un culte de la mort qui s'y mène.
Je ne sais pas si c'est un deuil ou une mélancolie. Je ne pense pas que ce soit du deuil. Parce que le deuil, ça voudrait dire que tu enterres ton passé, tu mènes ton deuil, et tu construis quelque chose de radicalement nouveau et d'assez cohérent. En fait, le processus de deuil, c'est vraiment de se construire un moi très fort. Et ce qui m'a semblé le plus évident à New York, c'était plutôt la perte d'identité de tout le monde. C'est-à-dire, personne n'a vraiment une identité définie. Et à ce moment-là, c'est plutôt un espèce de mélange et y a pas de, on ne mène pas le deuil, tu vois. On ne mène pas le deuil, par exemple, de son premier état pour arriver à un second état où on se fixerait et on tiendrait que c'est son moi et que ça va durer là, un moment. On a l'impression plutôt que les gens ont des couches différentes de patrie, enfin si patrie veut dire quelque chose, ou de référence et de référent, et que tout ça se mélange sans arrêt, sans qu'on puisse jamais dire c'est un drogué, c'est un intellectuel, il habite tel quartier, donc, tu vois, c'est vraiment tout à fait étonnant. Alors je suppose qu'il s'agit plutôt de mélancolie si on prend, au fond, le mélancolique ne sait pas ce qui a été perdu. En fait, est-ce qu'il y a quelque chose de perdu à New York? Certainement, mais quoi? Quoi? Est-ce que ce sont les grands espaces vierges? Est-ce que c'est l'Inde, enfin les Indiens qui ont été perdus? Est-ce que c'est l'espace qui a été perdu? Est-ce que c'est son propre passé qui a été perdu? Tout ça, a été perdu, mais quoi, tu vois? Et donc, on dirait que tout le monde cherche à combler ce vide de ce qui a été perdu et qu'on ne trouve pas. Et c'est ce qui fait que tout le monde bouge, et tout le monde change, et tout le monde est à la recherche de ce qui a été perdu sans savoir où c'est.
Good morning, evening, friend. Here's your friendly announcer. I have serious news to pass on to everybody.
La ville, c'est de la littérature à New York, un peu, enfin, dans son aspect architectural monumental. C'est ça que, comme si elle parlait plusieurs langues à la fois, mais des langues. Alors qu'on se demande, c'est ce qui a été perdu, ce serait justement quelque chose qui ne serait pas une langue, qui serait une gestualité, un nomadisme. Alors, essayer de combler un nomadisme avec de la littérature, effectivement, ça se casse la gueule toutes les 3 minutes, donc il faut rajouter de la langue. C'est-à-dire que moi, j'y suis allée avec la tête pleine de ce que j'avais lu, c'est certain. Et donc, je cherchais quelque chose, et je cherchais ce que je savais à l'avance. Et j'ai vraiment lu la ville. Bon, et j'étais gênée, comme tous les petits intellectuels européens, par le fait que c'était indéchiffrable. C'est-à-dire que les choses ne s'ordonnaient pas suivant la ligne habituelle. C'est-à-dire que tu n'as pas de parcours, on n'a pas fait le tour de la ville organisée, on n'avait pas de repères historiques. Et donc, si tu veux, j'ai été tout le temps sur ma faim, tout le temps sur une curiosité pas satisfaite. Tout le temps en manque de quelque chose, en manque de repères, en manque de d'un bon guide, par exemple, c'est ridicule, tu vois. Et c'est à ce moment-là qu'on fait retour sur sa propre civilisation en se disant, mais nous, on vit tout le temps entre deux lisières et des guides. On a des guides historiques, on a des guides littéraires, on a le guide de Paris, on sait où on met les pieds, on a des références, et au fond, on ne jouit des choses que par référence. C'est une espèce de culture dans laquelle on vit qui est une culture référenciée. Tu vois, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et que tu jouis des choses par récurrence, en quelque sorte. Alors que là, toutes tes références fichent le camp dans tous les sens, et tu n'as plus que des bribes de romans que tu essayes de replacer dans la ville, tu essayes de les retrouver, tu ne les retrouves pas, et à ce moment-là, tu es vraiment perdu, ce qui est bon, enfin, ce qui te fait réfléchir sur la petitesse et puis la manière dont on sectorise ici. Tu vois.
Mais ce qui est bon, c'est-à-dire que c'est lié au plaisir en même temps. Je veux dire, cet enchevêtrement des signes, le fait que les étiquettes s'en mêlent, que les...
Oui, parce que je pense que c'est la poésie. C'est-à-dire que, à mon avis, New York, c'est extrêmement poétique. Enfin, poétique au sens de créant de la fiction à tous les moments. Je me souviens, j'ai des images qui restent, et les images, c'est cette espèce de vapeur d'eau chaude qui, en plus des 40 degrés du soleil, t'envahissent tout d'un coup, font une espèce de brouillard sur ce que tu vois, qui est absolument cinématographique. Enfin, c'est, Tu es dans un film. Tu es dans un film et c'est étonnant, enfin c'est extraordinaire. Comme si c'était l'enfer, tu vois, qui passe par bouffer comme ça. Et tu te dis, bonté divine, si je tombe là-dedans, je vais cuire dans une casserole. Alors tu as tes référents du diable, enfin qui est là-dessous et qui fait cuire dans les marmites. Bon, qu'est-ce que c'est que cette vapeur, d'où elle sort? Qu'est-ce que c'est que ça? On ne sait pas. Ça fait des bouffées, des bouffées fiction, tu vois. Et alors, New York, c'était un petit peu ça, c'était un espace complètement fictif, d'autant qu'on l'a traversé tellement vite, qu'on a été évacué de cette fiction si vite, par les circonstances, par le fait qu'il faisait trop chaud, par une sorte de hallucination, tu vois, mais auquel tous les éléments contribuent, et dont ces vapeurs, ces espèces de vapeurs méphitiques, tu vois, extraordinaires, enfin, d'où ça sort, cette chaudière permanente. Et c'est fascinant, ça. Et effectivement, c'est un espace de fiction. Je crois qu'on l'a vécu trop fort, trop intensément. Je veux dire que maintenant, pour moi, Babylone, c'est un peu New York. Je peux revenir sur la tour de Babel, je peux revenir sur les jardins suspendus, je peux revenir sur la prise de Babylone dans Hérodote, en voyant New York. Tu vois, si tu veux, dans Hérodote, il y a des descriptions de Babylone qui sont absolument époustouflantes. Tous ces cadavres, ces mutilations, cette horde de gens différents, ces prises et ces déprises de la ville par des armées, qui sont d'ailleurs pas chez elles, mais qui occupent le terrain, puis qui sont vidées, tu vois, et qui se servent de leur mutilation pour la conquérir. Tu sais, je vais raconter cette histoire, enfin c'est Hérodote qui la raconte, où Zopyre se coupe le nez pour conquérir la ville. Il se mutile entièrement, puis ensuite il est maître de la ville. Et bon, mais maintenant, je vois un peu New York comme ça. Enfin, à la place de Zopyre, je vois un drogué, par exemple. C'est ridicule. Et oui, un nain, ou des géants, ou enfin des races, tu vois, tout à fait étranges, qui pour y vivre, se passent par des circuits incroyables. Et bon, alors, j'ai un micmac maintenant dans ma tête. Si tu veux, New York, ben, il faudrait un Hérodote, pratiquement. Faudrait que Hérodote réécrive son histoire et puis que bon qu'on le fasse ressusciter, puis que après tout bien, tu vois. Et puis ils ont un ordre assez bizarre aussi. On nous avait volé nos affaires, on était tout nus, enfin pratiquement, dans un parc. Et le type qui est venu nous ramasser était donc un policier. Mais j'en étais pas tellement sûre, il était dans une voiture normale, et puis il était en chemise à fleurs, et il avait plutôt l'air d'un hippie que d'un policier. Et il nous a dit de monter, je lui ai demandé de voir ses papiers, parce que, oui, à premier abord, comme ça, on peut pas savoir. Et à ce moment-là, déchaînement des forces de police, non seulement était dans la voiture du policier, mais il y avait derrière, devant deux types en motocyclette, et derrière un panier à salade, et encore derrière une voiture avec le ouh, comme ça. Et alors, pour nous qui avions, on n'avait plus rien, c'est tout, tu vois. Alors là, il y a une espèce de sursaut d'ordre, alors un ordre dément, tu vois, qui n'a plus rien à voir avec la petite infraction qui est commise, et qui d'ailleurs n'en est pas une, enfin, tu vois. C'était assez étonnant, ça.
Mais est-ce que c'est pas quelque chose d'un petit peu systématique la nuit? C'est-à-dire que la police ressemble aux brigands et les brigands aux policiers. À mesure où tout le monde se promène avec des armes, tout le monde se promène avec l'idée de guetter l'autre, avec des stratégies qui se ressemblent, etc.
Je ne sais pas si à New York, il y a une idée de stratégie. J'ai pas l'impression. Quand je me suis promenée dans New York le soir, j'ai plutôt l'impression de gens qui auraient pu aussi bien t'agresser que ne pas t'agresser. On est tombé sur des bandes de types qui étaient vraiment complètement shootés, bon, blancs, l'heure comme ça. Tu pouvais aussi bien passer à côté d'eux sans que rien ne t'arrive, que tout d'un coup, ils te bazardent un coup de couteau. C'était équivalent, et ça n'avait d'ailleurs aucune importance. Et donc tu ne peux pas prévoir, et donc tu ne peux pas faire de stratégie. Tu vois, il n'y a pas de processus stratège. Il y a des hasards qui se rencontrent, qui peuvent se faire, qui peuvent ne pas se faire. Si bien que Moi, ce que je pensais tout le temps, je me dis, je vais me servir de mon énergie psy pour influencer les gens, pour leur dire, passez plutôt sur le trottoir de gauche ou de droite, et fichez-moi la paix. Et j'ai travaillé là-dessus. C'est-à-dire, je me suis dit, non, il m'arrivera rien parce que je ne veux pas, et puis parce que le type, il va se pousser. Effectivement, il se poussait. Bon, hasard, bien sûr. Mais tu deviens tous sorciers, tout le monde devient sorcier. Je crois que, moi, je me suis conduite comme une sorcière. Bon, je ne l'ai pas dit, j'étais avec des gens, je n'ai pas dit ça parce que je me serais fait foutre de moi. Mais j'étais en position de contre-sorcellerie tout le temps. Et je me disais, si je passe là, si je passe ici, je vais prendre ce chemin-là. Bon, là, ça va. Celui-là, je l'annule à distance. C'était assez bizarre. Et ça marche. Alors, on remarque, bon, la sorcellerie, je crois que ça marche. Alors, ça marche à New York. J'ai vu quelqu'un l'autre jour qui me disait qu'à New York, on peut marcher indéfiniment. Et qu'au fond, c'est une ville pour marcher, marcher, marcher. Et je pense qu'il marchait. Et j'ai pas l'impression qu'à New York, les gens vont quelque part. Tu vois? Ils sont là. Toi, tu vas quelque part parce que tu es un touriste européen. Alors, tu as décidé d'aller quelque part. Et c'est complètement idiot à New York de faire ça, je crois. Il faut pas aller quelque part. Et c'est inutile de vouloir aller quelque part. Puisque tu es obligé de ruser avec la ville, avec les gens. Donc, il faut marcher et essayer de marcher le plus longtemps possible. Et puis rentrer, si on peut. Voilà, à peu près comme ça, comme quand tu essayes par des pratiques vraiment d'intuition et de flair. Enfin, tu te sers de ton nez, de tout, quoi, pour marcher dans la rue et puis essayer d'inventer des passages. Par exemple, quand nous sommes arrivés, nos amis nous avaient donné une espèce de géographie de New York, une géographie d'interdit, en disant pas plus loin que... J'ai oublié le nom de la rue, la énième rue, et pas à droite, et pas plus loin à gauche, et pas plus loin devant, et pas plus loin derrière, et surtout fais attention, et ne traverse pas tel parc, et puis si tu veux, évidemment tu peux le faire, mais c'est à tes risques et périls, et puis si tu vas là, on va t'accompagner, et tout. Donc c'était une géographie de restriction.
Les Ramones, Cretin Hop. Au Moyen-Âge aussi, les bêtes féroces, ours et loups, vaguant dans les espaces de solitude, autant que la peste, qu'un spectre du désordre, constituaient les abcès de fixation des terreurs individuelles ou collectives, religieuses ou morales. Et cette idéologie catastrophiste, où l'on reconnaîtra tout à l'heure le mysticisme des New-Yorkais, c'est la phobie millénariste de l'apocalypse, de la fin, du jugement dernier. Mais surtout, New York a peur de la peur. Un journaliste du Village Voice prend une pilule d'acide et le métro. Il raconte son voyage dans les colonnes de son journal. La ligne N, mais bon sang, qui connaît cette foutue ligne? Tout le monde connaît Queens, mais Brooklyn. Brooklyn est une chose noire et effrayante. Et si je ne vois pas le toit de la Williamsburg Savings Bank, je suis paumé. Le plan du métro, tu parles. À Porto Rican, la barbouillée de graffiti. Voyage au bout de la ville et de la nuit. Sous dans le métro, ok. Pété à la colle, passe encore. Mais sous acide, beurre. Mon ami, le gros Bart, s'accroche à moi. Tout ce que l'on sait, c'est 25e avenue, sortir. Le train est bondé. De l'autre côté, un jeune mec, blanc, à la gueule de pizza et couvert d'un manteau à poids, joue des 45 tours dans un tourne-disque portable. Comme s'il s'agissait d'une question de vie ou de mort, le gros Bart plonge dans les jambes du type et lui demande « Est-ce que tu as du Chuck Berry ?» Le gars enclenche « No particular place to go. » Dieu, on est sauf une fois de plus. Les gens dans le wagon deviennent fous. Une moitié dit au type d'arrêter ça, l'autre moitié voudrait me tuer. Il n'est pas rare que les lumières s'éteignent brusquement. Parfois quelques secondes seulement. Un signal, un de plus parmi mille autres, pour alarmer, tenir en éveil, aiguiser les réflexes. Une fois, le train est resté bloqué 20 minutes entre Times Square et Grand Central. Dans l'obscurité. Le wagon était complètement rempli. Les gens sont restés immobiles, impassibles. Seule une voix s'élevait pour injurier tous les dieux. Une autre fois, assez tard le soir, à la sortie de Houston Street, une bande de gosses, tous très jeunes, bloque l'un des escaliers, menaçant. Je prends l'autre escalier en courant. Ils font mine de me poursuivre dans les couloirs, jusqu'au portillon. Pour rire, sans doute, mais j'ai eu peur, ça c'est plus sûr. New York vit à l'âge de la grande peur. Chaque jour, on compte près de 300 vols ou agressions à main armée. Les gens se terrent, ils se font tout petits. Et petit à petit, ils ont appris à vivre avec l'angoisse, jusqu'à ne plus s'en préoccuper. La peur est partie de l'environnement ordinaire. Il n'y a pas longtemps, l'immeuble mobile a été l'objet d'une alerte à la bombe. Ce n'était pas la première. Dans les haut-parleurs, une voix a annoncé « Nous ne cédons pas au chantage cette fois, nous refusons d'évacuer l'immeuble ». Mais en ce cas, pourquoi avoir annoncé la menace aux employés de la tour? Retour au métro. Les gens se cramponnent aux poignées mobiles, s'accrochent à leur siège. Ils ne se regardent pas. Chaque regard fuit celui de l'autre. Triste alternative, se regarder soi-même dans le reflet de la vitre ou lire, pour la énième fois, les publicités suspendues au-dessus des têtes et qui ne changent jamais. New York est parano. Et New York est schizo. Dans cette ambiance de meurtre, d'agression latente, chacun joue la normalité, mime une tranquille indifférence. Inquiétude schizoïde devant cette autre alternative, le besoin de bouger, le désir de fuir ou l'exigence morbide d'immobilité. La peur de bouger ou la peur, en ne bougeant pas, de devenir cible, victime. Lost Paradise. Ceux qui bougent le moins, les petits vieux, ont l'air d'âme au purgatoire, coincés sur leurs banquettes, cachés derrière les grands sacs en papier des supermarchés. Obstinément, ils regardent les chaussures de leurs voisins. New York est sans doute la ville au monde où les habitants connaissent le mieux l'anatomie du pied. Décidé à ne pas entrer dans ce jeu, je fixe la femme assise en face de moi. Elle a l'air complètement paniquée. Plus tard, dans un couloir, un type s'arrête. Je l'avais dévisagé. Mais alors, où poser ses yeux? Regarde aveugle, foule de somnambules. Seulement la force de l'aveugle est de n'avoir point d'illusion. Il n'est pas victime des effets pervers de la perspective. Et ce qu'il sait des lieux, il le sait vraiment. Il les possède totalement. Sorti du métro, quittez la rue, rentrez chez vous. La peur ne vous quitte pas tout à fait. Concert incessant des sirènes la nuit, qui crie quelque chose de plaintif et lancinant. On se recroqueville. Les gens, jusqu'à chez eux, ont peur de trop dépenser leur énergie, de ne plus pouvoir faire front. Ils ont peur de bouger, peur de prendre du plaisir, peur de jouir.
Contre la violence de la nature, New York n'est pas une protection. C'est une ville à ciel ouvert. Les orages inondent ces rues si larges, si longues, à traverser quand il pleut. Les ouragans secouent les maisons de briques et balancent les gratte-ciels. La radio les annonce solennellement des déclarations de guerre. En été, l'air vibre entre les maisons. En hiver, la ville est noyée de sorte qu'on pourrait croire en quelques banlieues de Paris quand la Seine déborde. Mais là-bas, ce n'est que la neige qui fond. La nature pèse si lourdement sur New York que la plus moderne des villes est aussi la plus sale. De ma fenêtre, je vois le vent jouer avec des papiers épais, boueux, qui voltigent sur le pavé. Quand je sors, je marche dans une neige noirâtre, sorte de croûte boursouflée de la même teint que le trottoir, à croire que c'est le trottoir lui-même qui se gondole. Dès la fin de mai, la chaleur s'abat sur la ville comme une bombe atomique. C'est le mal. Les gens s'abordent en disant « It's murder ». Les trains emportent des millions de citadins qui fuient et qui laissent, lorsqu'ils descendent, une trace humide sur la banquette, comme les escargots. Ce n'est pas la ville qu'ils fuient, c'est la nature. Extrait de Situation 3 de Jean-Paul Sartre, 1946, lu par Connie Kaiserman.
Island est célèbre pour ses longues plages de sable blanc et ses parcs d'attractions. Pour son aquarium aussi, où s'ébattent des monstres marins. Galipette amoureuse des cachalots et chaud intéressé des dauphins. Des milliers de poissons, plats, moustachus, phosphorescents, affreux, jolis. Et dans un bâtiment à part, les requins. Le sauvage anthropophage, le carnassier qui terrorise une Amérique carnassière, mais repue et ordonnée, Jaws. Œil hébété, œil de mort. Sale gueule, museau pointu. Trois rangées de dents qui se chevauchent. Devraient se faire refaire le portrait, les salauds. Jaws, c'est l'Amérique, violente, sanguinaire. Une Amérique qui se fait peur à elle-même à force de se regarder dans les vitres du métro new-yorkais. Peur de sa propre bestialité. La technologie américaine a peut-être maîtrisé la nature, mais non la peur que celle-ci inspire. Et à la télévision, cette annonce, l'Almanach paysan, la deuxième bible des Américains du Midwest, prévoit des blizzards pour l'hiver. Et si brusquement les loups rappliquaient. Le bon 1.
Ce qui est fascinant à New York, c'est la présence des animaux. En tout cas, il y a quelques anecdotes comme ça, très 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 étranges, qui sont arrivées dans les, disons, les 10 dernières années. À l'époque où, à force de gadgets, à force d'animaux domestiques, on ne savait plus ce qu'on pouvait acheter, entre les singes, entre les souris. Alors, les gens ont commencé à importer, enfin à ramener surtout des alligators, des crocodiles, des petits alligators qu'on se mettait dans sa baignoire. D'un seul coup, c'était très chic d'avoir un petit alligator dans un aquarium ou dans une baignoire. Et on gardait ça plusieurs semaines, c'était le nouvel animal à la mode. Et tout le monde en achetait, on trouvait ça très facilement, on trouvait ça dans les endroits où on achète un oiseau, on achète un poisson rouge. Alors on achetait son petit crocodile. Et le crocodile s'installait dans votre salle de bain, vivait tant bien que mal avec ce que vous pouviez lui donner, c'est-à-dire dans les moments les plus cruels, deux ou trois souris blanches achetées dans le magasin à la mode. Puis d'un seul coup, on s'apercevait que le crocodile grandissait, que d'un seul coup, ça devenait un peu embarrassant, on ne savait plus où le mettre, et puis on s'en lassait tout simplement, comme on se lasse de tout. Alors le crocodile, on foutait à la poubelle. Le foutre à la poubelle, ça veut dire que le crocodile, d'un seul coup, se retrouvait dans les égouts. Et les crocodiles dans les égouts, eh bien, se sentaient chez eux. Les crocodiles se sont installés dans les égouts. On a comme ça eu une espèce de génération maudite de crocodiles qui avaient été transplantés à New York, qui se sont tous retrouvés ensemble dans les égouts et qui se sont installés, qui sont devenus gigantesques, qui d'ailleurs ont été l'objet de mutations très étranges. Alors dans les égouts, il n'y a pas de lumière, là, ils étaient tous aveugles, alors ils avaient des yeux très, très étranges. On avait une faune comme ça qui s'était installée sous New York, de manière complètement confortable dans le labyrinthe, dans le réseau le plus gigantesque de la Terre, d'égouts. Et un jour, j'imagine, parce que je ne me souviens plus tellement des conditions que ce soit, un égoutier a dû être mordu ou dévoré par un crocodile. On s'est aperçu que les crocodiles s'étaient regroupés, qu'ils avaient formé des nids, qu'ils s'étaient reproduits et que les crocodiles étaient installés dans les égouts de New York. Alors, on rencontrait plus les rats, on rencontrait plus les cafards dans les égouts, on rencontrait les crocodiles. Et les crocodiles, on a pu s'en débarrasser uniquement à la dynamite. Ça a été une histoire drôle, tragique à la fois. En même temps, cette présence de ces animaux rejetés qui s'installaient, qui luttaient contre les éléments mêmes dans lesquels on les avait mis, qui d'un seul coup réutilisaient les déchets qui se trouvaient dans les égouts, devenaient des espèces de monstres préhistoriques dont on ne peut avoir absolument aucune notion si on en avait gardé un ou deux pour dire voilà ce que c'était que d'amener un crocodile, de le mettre dans sa baignoire. Ça devenait une chose de 2 mètres, aveugle, et qui bouffait n'importe quoi, qui bouffait les bouteilles en plastique et qui pouvait vous avaler un pied dans le pire des cas lorsque vous étiez égoutier.
New York, Moyen Âge. Demain, histoire de la folie.
Les nuits magnétiques par Pascal Dupont. Gérard Drake et Édouard Passafioum en ont assumé la bonne marche technique. Mise en page, Bruno Sourcy.
C'était une émission diffusée la première fois le 2 janvier 1978.